Merci de nous rejoindre sur Radio Capi en cette matinée. Congolais de l'étranger reçoit aujourd'hui un Congolais qui vit à Londres depuis 26 ans. Il est parti du pays en 1991. Nous allons donc savoir pourquoi il est parti et qu'est-ce qu'il fait. Bonjour Monsieur Bambi Mboubi.
Bonjour Julie Ndala.
Comme je disais tout à l'heure, vous êtes là depuis 26 ans et vous êtes fondateur de Congo Calling. C'est une organisation basée au Royaume-Uni pour la défense des intérêts des exploitants miniers. On va en parler un moment. D'abord, dites-nous pourquoi vous êtes parti du pays.
Bon, j'ai quitté le pays à l'époque où ça n'allait pas du tout au Congo. À l'époque, nous pensions que la situation allait s'améliorer, mais bon, évidemment, la situation est devenue ce qu'elle est, mais à l'époque c'était déjà ça n'allait pas du tout. Et j'ai quitté, je suis allé m'installer en Grande-Bretagne. C'est là où j'ai évolué jusqu'aujourd'hui.
Et à l'époque, quand vous êtes parti, vous veniez de finir vos humanités ici et vous vous êtes inscrit en droit à l'université de Kinshasa et vous avez quand même préféré arrêter les études pour aller à Londres.
Oui, parce que bon, à l'époque, il y avait déjà eu une fermeture, étant donné que nous avons, en tant qu'étudiants, manifesté et que, bon, par la suite, il y a même eu une prise des otages, des députés nationaux étaient pris en otage, et le gouvernement de l'époque avait fermé l'université, donc pour nombre d'entre nous, il n'y avait vraiment pas du tout d'espoir et pouvoir reprendre normalement mes études. Bon, et puis à l'époque, ma famille et moi, nous nous sommes décidés que c'était vraiment ça ne pouvait plus marcher et que je devais quitter le pays pour poursuivre mes études ailleurs.
Et une fois arrivé à Londres, première difficulté, la langue, parce que vous quittez d'un pays francophone à un pays anglophone, vous devriez impérativement apprendre l'anglais.
Oui, évidemment, c'était ça la plus grande difficulté. Mais pour moi, il n'y avait pas seulement la langue, il y avait aussi le fait que quand je suis venu, j'avais fait une demande d'asile. Et malheureusement pour moi, j'ai été détenu pendant 4 mois dans un centre de détention. Déjà ça, c'était un choc, être détenu dans un centre de détention pour une personne qui n'avait pratiquement pas eu une expérience carcérale au pays, c'était très difficile à supporter. Parce que pour la plupart de gens qui demandaient l'asile à l'époque, ils n'avaient pas connu de détention, que je sois là et qu'on me détienne, c'était difficile. Il y avait ça, il y avait aussi la langue, quoi.
Et l'environnement que vous aviez trouvé, est-ce que cet environnement vous avait été favorable une fois sorti de cette détention? Vous avez trouvé des gens, vous êtes retrouvé dans un environnement inhabituel. Et comment vous avez fait pour vous intégrer dans la communauté?
Bon, je crois que pour moi, le fait que j'étais détenu, d'une manière assez... c'était pas aussi mal parce que finalement j'ai pu quand même rencontrer des gens qui avaient sympathisé avec moi. Ce qui fait qu'une fois que j'étais relâché, ces gens ont continué à me poursuivre, qui m'ont donné un support affectif dont j'avais besoin. Parce qu'il faut vous rappeler qu'à l'époque, je n'avais que 21 ans. À 21 ans, on se pense adulte, on croit qu'on peut tout faire. Mais bon, quand on sort de son milieu culturel et qu'on n'a pas le soutien affectif familial et même de ses amis, c'est très difficile. Donc, le fait que j'étais en détention et qu'il y avait eu des gens qui venaient nous rendre visite en détention, et qu'une fois sorti, ces gens continuent à me soutenir. Donc, quelque part, c'était un mal nécessaire, quelque part.
Et après la détention, vous avez suivi des cours d'anglais avant de vous inscrire en droit, après de faire aussi des recherches, mais aussi de faire des études en sciences politiques et sociologiques. Dites-nous en quoi ces études vous ont aidé?
Bon, évidemment, il y avait la langue, c'est vrai, je l'ai apprise, mais tout au début, c'était difficile parce que, bon, j'ai été habitué à parler français, à tout apprendre en français et changer du coup du français en anglais, c'était pas facile pour moi. Mmh. Et puis surtout que je faisais des études en droit, en sociologie et tout ça. Donc finalement, quand j'ai repris mes études, c'était un calvaire. Mais tout ça m'a permis aussi d'avoir une perspective. Ça m'a aussi permis de me sentir un citoyen capable de pouvoir contribuer, parce que c'était ça aussi mon ambition. Ce n'était pas seulement pour moi-même, mais j'envisageais être une personne qui plus tard peut contribuer à la société. Et les études m'ont permis de me sentir aguerri et amener ma modeste contribution à tout ce qu'il y a comme évolution dans la société.
Vous vouliez faire un doctorat, mais vous ne l'avez pas fait.
Oui, bon, moi personnellement, et je pense aussi beaucoup d'autres amis avec qui j'ai grandi, les études c'était un peu notre seule issue de pouvoir sortir d'un statut social modeste pour aspirer à de grandes choses. Mais évidemment, une fois que j'avais embrassé les études, je me suis senti à un moment donné incapable de poursuivre, parce que quelque part aussi il y avait des responsabilités que j'avais au niveau familial, mais aussi au niveau de tout ce que j'ai eu à reprendre comme activité. Donc il y avait toujours un clash quelque part. Donc finalement, quand j'ai fait mon master, qui est un master spécialisé, donc un research master qui se penche beaucoup plus pour ceux qui veulent poursuivre de bonnes études, surtout post-universitaires. Une fois que j'avais fait ça, bon, je n'ai pas eu l'énergie nécessaire pour poursuivre et faire un doctorat. Mais bon, ce n'est jamais trop tard, hein, on peut toujours faire ça un jour.
Et merci à tous ceux qui sont en train de nous écouter à l'extérieur du pays via notre site internet www.radio.com. Radiocapi.net. Congolais de l'étranger reçoit aujourd'hui Monsieur Bandi Mboubi, Congolais qui vit à Londres depuis 26 ans. Il est fondateur des Congo Calling. C'est une organisation basée au Royaume-Uni pour la défense des intérêts des exploitants miniers. Alors, c'est en 2012 que vous créez cette structure. Parlez-nous-en.
Merci également pour éveiller l'attention de l'opinion publique internationale sur ce qui s'est passé au Congo. Évidemment, pour nous, le focus, c'est les ressources naturelles. Faire en sorte que l'opinion publique internationale soit au courant de ce qui se passe au Congo et de la manière dont les ressources naturelles sont gérées. Comment est-ce que ceux qui exploitent ces ressources naturelles sont souvent exposés soit à des abus, soit au fait que souvent les groupes armés s'approprient le bénéfice et la population locale n'en bénéficie pas forcément. Donc c'était ça un peu l'idée de Congo Calling. Donc jusque-là, on a essayé d'évoluer en ce sens-là, donc surtout attirer l'opinion publique internationale sur ça, par rapport même à la manière dont nous conscientisons les consommateurs pour que justement, quand ils achètent leurs produits, surtout les grands consommateurs, quand ils achètent leurs produits, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus regardants sur la manière dont les grandes compagnies de technologie achètent leurs matières premières qui proviennent de la RDC.
5 ans après, pouvez-vous nous rassurer que les achats se font dans les normes?
Je crois que le bilan est mitigé. L'évolution a été modeste parce que, d'une part, il y a eu des régulations qui ont fait en sorte que les grandes entreprises soient contraintes de déclarer ce qui leurs activités, surtout au niveau de la RDC, base, comme au niveau de ce qu'il y a comme exploitation minière. Mais l'applicabilité a posé problème parce que les grandes compagnies de technologie n'ont pas toujours déclaré d'une manière claire comment est-ce qu'elles obtiennent leurs matières premières provenant de la RDC. Il y a eu aussi une évolution au niveau de l'Union européenne, parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu toute une autre loi qui a été mise en place pour justement faire en sorte que les grandes entreprises soient contraintes de déclarer la manière dont elles obtiennent leurs minerais venant du Congo. Mais, comme je venais de dire, au niveau de la fiscalité, c'est très difficile. Et puis, il y a aussi un autre problème qui se pose au niveau même du pays. Comment est-ce que ces ressources sont gérées? Et on constate que même si l'argent entre, cet argent n'est pas forcément utilisé pour le bien-être de la population locale. Donc le problème se pose encore, et c'est pour ça justement que nous continuons de mener notre campagne, nous continuons de publier, et nous animons des séances de travail au niveau des universités. Et juste là, nous avons pu atteindre 15 universités, y compris des universités prestigieuses telles que Oxford, pour justement travailler avec l'élite intellectuelle pour que justement on de contrecarrer tout ce qu'il y a eu comme abus, soit au niveau des finances, soit au niveau de la manière dont les exploitants locaux sont traités.
Vous avez été invité plusieurs fois à TILS, qui est l'oreille congolais des pouvoirs publics britanniques en matière de défense des exploitants miniers congolais. On suppose que le gouvernement congolais est au courant de votre organisation. Est-ce que vous bénéficiez d'un appui de ce gouvernement?
Non, malheureusement. Je ne pense pas que le gouvernement congolais assiste beaucoup de Congolais qui travaillent pour la défense des intérêts congolais, ceux qui sont à l'étranger, malheureusement pas. Mais aussi, il se pose un problème, surtout au niveau de la manière dont nous constatons le traitement que le gouvernement congolais lui-même inflige aux exploitants congolais. Il n'y a pas souvent un encadrement qui les permette de pouvoir bien évoluer. Donc, comme nous sommes souvent critiques, je ne pense pas que les gouvernements congolais nous favorisent ou nous traitent comme étant des alliés stratégiques. Je pense que le gouvernement congolais pense que nous sommes là que pour les attaquer.
Et selon ce que vous avez déjà fait, pensez-vous qu'un jour les choses pourront bien marcher en RDC par rapport à toutes ces ventes et un état des droits pour que les ressources naturelles de la RDC soient bien vendues, bien achetées, bien exploitées?
Oui, c'est toute une démarche. Je crois que l'évolution parfois se fait d'une manière lente, mais c'est toute une démarche que nous sommes en train de mener. Nous avons constaté que dans la société occidentale, généralement, les gens s'assurent que quand ils achètent leurs produits d'ouvriers ou quand ils achètent leurs habits, nombreux d'entre eux cherchent à comprendre comment est-ce que ces marchandises sont produites. Et en ce qui concerne les produits de technologie, nous voudrions atteindre à peu près le même niveau de conscientisation. Et si nous atteignons le même niveau de conscientisation, nous voudrions qu'à un moment donné, on soit à mesure, le consommateur au niveau international, soit à mesure de comprendre comment est-ce que ces minerais sont exploités, de sorte que quand un consommateur achète un produit, il se dit que, bon, au Congo, au Kivu, au Katanga ou ailleurs au Congo, personne n'a été abusé, soit de ses droits, soit de la manière dont la personne a été rémunérée. Donc, c'est toute une démarche, et je crois que pour nous, c'est un début. 5 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais au même moment, c'est pas beaucoup, parce que, bon, il y a eu toute une démarche que nous avons faite. Mais nous avons aussi constaté que ce n'est pas l'unique chose qui doit être faite. Il y a aussi toute une démarche au niveau même de le fait que, bon, même si nous améliorons les revenus au niveau du Congo, au niveau de la trésorerie congolaise, il y a aussi l'État lui-même qui est souvent faible, qui n'est pas toujours en mesure de défendre ses propres intérêts. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé, surtout pendant ces 2 dernières années, avec tout ce qu'il y a eu comme force vive, pour justement faire en sorte qu'il y ait un avènement d'un état de droit. C'est aussi ça un peu notre démarche, pas seulement nous focaliser sur le commerce qui doit être beaucoup plus équitable en faveur des Congolais, mais aussi faire en sorte qu'il y ait des institutions fortes qui puissent justement bien gérer le pays pour que, quand ces ressources rentrent, les Congolais moyens puissent en bénéficier. Donc c'est aussi ça notre démarche.
Et en dehors de ça, vous faites également partie d'une organisation humanitaire depuis que vous êtes à Londres.
Oui, parce que bon, on travaille toujours en partenariat avec d'autres organisations. Je travaille aussi en passant avec des organisations comme Global Witness, où je suis membre de leur comité de conseillers. Je travaille aussi avec des organisations comme Tier Fund. Bon, il y a eu aussi un moment donné où j'ai reçu un prix de la BBC. Ils m'ont plébiscité comme étant un de 50 héros dans l'ombre qui changent le monde. L'année dernière, c'est le prix que j'avais reçu. Il y a toute une panoplie d'organisations, des individus, des gens avec qui je travaille, avec qui l'organisation travaille. Mais bon, si je vais vous détailler toutes les organisations avec qui nous avons pu travailler, bon, on passerait toute une émission là-dessus, mais bon, il nous a fallu ces genres de partenariats et c'est très, très important dans ce que nous faisons. Vous avez relevé aussi TED, hein. TED a été une plateforme importante pour nous, puisque TED nous a permis d'expliquer ce que nous sommes en train de connaître au Congo. TED nous a permis de véhiculer les messages, surtout en termes de tout ce qu'il y avait eu comme, de tout ce qu'il y a comme commerce illicite, au niveau international, peuvent s'assurer que tous peuvent faire pression sur des compagnies, des technologies, de sorte que le système puisse changer, et puis aussi les universités que j'ai citées, qui aussi souvent nous sollicitent pour soit des séances de travail, soit des ateliers, soit des symposiums, soit justement participer à des cours que ces universités dispensent. Et tout ça, ça nous permet de conscientiser l'opinion.
Pendant tout ce temps, vous n'avez pas fait qu'étudier et travailler. Vous vous êtes également marié. Vous avez aujourd'hui deux enfants.
Oui, évidemment, il n'y a pas que le travail. Hein, donc, il y a aussi la famille. Je me suis marié. Et puis, ma femme et moi, nous avons deux enfants. Venait d'avoir 12 ans. Le plus dernier va totaliser 29 ans. Malheureusement, c'est pas toujours, c'est toujours loin de la famille que nous avons laissée derrière au Congo. Mais bon, la situation étant celle qu'elle est, il n'est pas toujours facile de les amener au pays. Mais j'espère qu'un jour ils pourront voir leur pays d'origine.
Est-ce que vous pensez un jour revenir au pays, vous installer au pays et entreprendre autre chose?
Chaque année, je me suis assuré de revenir, ne serait-ce qu'une fois. C'est ce que j'ai fait pendant ces trois dernières années. Je suis revenu souvent pour le travail, parce que certaines organisations avec qui je travaille me permettent de travailler en collaboration avec moi, et j'arrive à revenir au pays et souvent comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc je reviens de temps en temps au pays. Mais évidemment, les soucis que j'ai, c'est un jour revenir au pays et continuer le travail que nous avons commencé en Grande-Bretagne au pays. Mais pour ça, il faut créer les choses changent. Il faut que, quelque part, nous ayons un gouvernement qui permette à ce que la situation soit propice à ce que ce genre de travail que nous menons ici puisse se faire au Congo.
Et dites-nous, avant de finir, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose depuis votre arrivée, hein, disons quand vous veniez en tout cas d'arriver à Londres, quelque chose qui aujourd'hui, quand vous y pensez, vous riez, par exemple, quel souvenir vous gardez de votre arrivée?
Oh, je garde beaucoup, beaucoup de souvenirs. Des petits faits, par exemple, quand je ne parlais pas encore anglais. Je me rends dans une boutique et j'ai acheté un jus d'orange et je ne savais pas comment dire une paille, et le seul terme qui m'est venu en esprit, c'était pipe. Donc je pensais que c'était pipe qu'on dit. Can I have a pipe? Alors, le monsieur ne comprenait pas, parce que pipe en anglais, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut aussi dire une pipe. Alors le monsieur a cru que c'était une pipe, alors le monsieur a dit non, je n'ai pas de pipe ici. Et finalement, Et quand j'ai bien expliqué, je lui ai dit, bon, je veux quelque chose, j'ai justifié, et la personne a compris que c'était une paille, donc il voulait dire ce qu'il faut. C'est comme ça que j'ai pu comprendre qu'on dit slow, et pas paille, qu'on dit slow. Il y a pas mal d'anecdotes, mais il y a aussi le fait que, bon, quand on ne connaît pas... C'est tout Londres, quand parfois on se promène, on ne se rend pas toujours compte que ça se ressemble à certains endroits. Et quand on n'est pas sûr, quand on ne connaît pas très bien la ville, on se retrouve dans un quartier, on croit qu'on est dans le quartier qu'on avait envisagé être, et on se perd facilement. Ça m'est arrivé souvent quand je venais d'arriver.
Que pourriez-vous dire à tout cela, tous les jeunes qui aujourd'hui pensent aussi voyager pour Londres pour raison d'études? Quels conseils pouvez-vous leur donner?
Je pourrais dire que, bon, pour ceux qui aimeraient venir en Grande-Bretagne et qui sont jeunes, je pourrais leur dire que aujourd'hui ils ont beaucoup plus d'opportunités de venir en Grande-Bretagne d'une manière beaucoup mieux que ce que nous avions eu à faire, parce que le gouvernement britannique octroie maintenant des bourses. L'ambassade britannique a tout un système qu'ils ont mis en place pour que ceux qui veulent, qui aspirent à des études, puissent bénéficier de cette bourse. Quelque chose que nous n'avions pas forcément eu à l'époque.
Monsieur Bandi Mboubi, c'était un plaisir pour nous de vous avoir au téléphone depuis Londres. Vous y vivez depuis 26 ans et nous vous en remercions.